La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Une imprimante 3D pour réparer des jouets plutôt que de les jeter. Elisabeth, c'est la solution et ça s'appelle Dagoma.
Oui, Dagoma qui est basée à Roubaix, conçoit, fabrique et vend des imprimantes 3D. Jusque-là, rien de très original. Mais la particularité de cette start-up, c'est qu'elle permet de réparer des jouets cassés ou de compléter des jouets dont les accessoires ont été perdus. Hein. Vous savez, le bras de la poupée Barbie.
Oh oui.
Voilà, c'est un peu ça. Ça nous est tous arrivé de voir un jouet laissé dans un coin parce qu'il manque cette pièce, impossible à retrouver. Et on n'a pas forcément envie ni les moyens de racheter le jouet en entier. Ainsi, Dagoma a décidé de changer le destin de ses jouets grâce à une plateforme, Toy Rescue, qui regroupe des modèles 3D proposés gratuitement pour permettre à chacun de les imprimer sur cette imprimante 3D. Bonjour Mathieu Régnier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Dagoma. Alors vous voulez rendre à chaque jouet sa magie.
Bah exactement.
C'est un peu ça.
Exactement. C'est triste de voir qu'en France, il y a 40 millions de jouets qui sont jetés chaque année. Et dans notre process d'engagement de marque, parce que je pense qu'aujourd'hui, une marque se doit d'être citoyenne, se doit d'être engagée. On a déjà bossé sur de la réparabilité, mais on voulait s'exprimer encore plus fort. On voulait toucher chacun. Et je pense qu'on a tous vécu, on a tous vu un enfant perdre la jambe de n'importe quel jouet, la roue de n'importe quelle voiture, etc. Et on s'est dit que ça allait faire un, réagir, et deux, donner énormément de sens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D? Et bien, par exemple, on peut réparer.
Alors, je reprends l'exemple du bras de ma poupée Barbie.
Comment je vécu,
fais, comment je fais pour pour récupérer, grâce à vous, pour pouvoir la réparer?
Alors, c'est vraiment extrêmement simple. La première étape, c'est d'aller sur le site toy-rescue.fr et puis de taper Barbie dans la barre de recherche ou de chercher dans les poupées, parce qu'il y a pas mal oui, d'objets qui sont disponibles. Et puis, je télécharge, je prépare mon fichier à l'impression et je l'imprime. Ça, c'est dans le cas où on a une imprimante 3D.
Dans le cas où on n'en possède pas.
Et dans le cas où on n'en possède pas, on fait la même démarche. On va sur le site Toy Rescue. Sauf que le télécharger, c'est gratuit, donc allez-y, mais ça ne va pas servir à grand-chose. Et donc là, il y a un autre petit bouton qui est « Je demande à la communauté de l'imprimer pour moi ». Et c'est là où, en fait, ça montre que la marque Dago et que les ambassadeurs, j'ai envie de dire, tous les membres de Dagoma sont vachement engagés. Parce qu'on a un club Dagoma, et des gens se sont inscrits de manière volontaire,
spontanée,
pour imprimer pour les autres. Voilà, alors le bras d'une Barbie, alors je n'ai pas les chiffres en tête,
mais
ça va coûter probablement...
Non, mais il y en a d'autres, donnez-nous d'autres exemples.
Non, mais le bras d'une Barbie, le pied d'un Tortue Ninja, peu importe, la roue d'une voiture, c'est des pièces qui vont en fait, à la fabrication, être très peu chères. Ça va être 15-20 centimes. Et donc en fait, il n'y a pas d'idée d'argent sur cette plateforme. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait du partage et de l'échange entre les gens, puisque la communauté est partout en France. Donc si vous avez besoin d'un bras de Barbie, n'hésitez pas, je suis certain qu'à Paris, plein de Dagomakers vont être partants pour vous imprimer le bras de votre Barbie.
Mathieu, petite précision, vous en avez référencé combien des pièces comme ça?
Alors aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de jouets. Donc dans chaque jouet, il y a plein de pièces. Hein, le bras, la jambe, la tête, etc. Et puis on continue, puisqu'en fait, il y a deux autres petits boutons sur cette plateforme. il y a le bouton « J'ai pas trouvé ma pièce, donc j'aimerais bien que vous fassiez, en fait, vous conceviez le dessin de tel ou tel jouet. Voilà. »
Et vous vous en chargez?
Et du coup, nous, on va continuer à alimenter. L'objectif, c'est qu'un jour, Toy Rescue devienne la plus grosse plateforme gratuite de pièces détachées de jouets au monde.
Là, il y en a plus d'une centaine, je crois.
Et là, il y en a plus d'une centaine.
Laurent,
mais la magie,
expert.
C'est que... C'est étonnant. Je crois même que votre première imprimante 3D, vous l'avez imprimée par une imprimante 3D.
Ouais.
Ça va à l'infini, cette histoire-là.
C'est ça. Mais Dagoma est historiquement un concepteur fabricant d'imprimantes 3D. Et en effet, le process dans lequel on est rentré, c'est de se dire... L'impression 3D, c'est incroyable en termes de fabrication. On peut fabriquer en local. Et comme nous, on avait la volonté de fabriquer en France, on s'est dit que nos imprimantes...
Ça veut dire quelque chose, Dagoma?
Alors, ouais, ça veut dire quelque chose. Le da, c'est un préfixe en chinois qui veut dire imprimer.
D'accord.
Voilà. Et donc, c'est l'origine de Gauthier et Mathieu, les deux cofondateurs. Voilà, Dagoma.
Là, pour l'instant, vous êtes en France. Vous pouvez être aussi utile pour au-delà de nos frontières.
Alors, la plateforme est disponible partout dans le monde. Et d'ailleurs, je peux vous assurer qu'il y a des visites partout dans le monde.
C'est vrai,
rigolo. Ouais. On a eu les US, on a eu le Chili, on a eu la Colombie. Il y a pas mal de Honduras. Enfin voilà, plein de pays d'Amérique du Sud. Et il y a aussi évidemment Asie, Hong Kong, etc.
L'opération Toy Rescue, elle est toute récente. Elle est lancée depuis la semaine dernière.
C'est ça, voilà.
Vous avez eu déjà beaucoup de connexions ?
Ah ben c'est... Oui, oui, beaucoup.
Phénoménal.
Ben là, je cours entre le téléphone, les mails, et, ouais, et c'est génial.
Là,
et
vous
c'est...
êtes avec nous, vous et êtes sur Europe 1.
Ça se chiffre.
Ah mais là, je reste.
Ça se chiffre, là, en une semaine, vous avez déjà eu beaucoup de demandes de réparation ou de, pour compléter un jouet ?
Les téléchargements, c'est plusieurs centaines. En fait, je suis sûr que c'est plusieurs milliers, mais je n'ai pas les derniers chiffres. Mm-hmm. Donc, tous les jours, on a des téléchargements. Les demandes, c'est très rigolo, mais en fait, il y a une demande massive de concevoir plus de jouets. Et donc là, ça va être un gros challenge pour nous. Et j'espère qu'on va le relever. En tout cas, je le souhaite.
Et quelle est la pièce qu'on recherche le plus ?
Alors, je ne sais pas si c'est pour... Barbie, c'est un carton ouais. monumental.
Et oui.
Beaucoup de Lego. Sauf que Lego propose déjà des pièces détachées, qui n'y a pas forcément de raison à les imprimer. Et voilà, et nous, on va surtout proposer des pièces dans le futur qui... dont les marques ne proposent pas les pièces détachées, parce que le but, c'est quand même de faire évoluer les choses et de permettre à plein de jouets d'être réparés.
C'est une très belle initiative. Ouais. Toy Rescue, grâce à Dagoma. Merci beaucoup, Mathieu Régnier, d'être venu nous en parler. Et puis, je crois qu'on va, vous retrouver probablement dans la sélection des Trophées de l'Avenir Europe 1, qui auront lieu au mois de janvier. On en est très fiers.
Merci.
Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous, on a tous déjà attrapé un rhume, commencé à tousser, n'est-ce pas ? Ou passé 48 heures couché avec de la fièvre depuis que l'hiver est là ? Eh bien, vous allez voir que des Français réfléchissent pour éviter la propagation des maladies. A tout de suite, c'est La France Bouge.
Europe 1. Midi 14h. La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France Bouge, si vous nous rejoignez. Je suis certaine que le dossier que nous ouvrons ensemble aujourd'hui va faire écho dans plus d'une famille. Journée enfant malade pour cause de fièvre, petit état grippal qui dure. Les maladies d'hiver sont là et on a beau connaître les conseils d'usage pour éviter de les attraper. En général, on n'y coupe pas. Alors, eh bien, des Français se sont penchés sur la question pour faire en sorte de limiter leur propagation. Et ça commence forcément là où les maladies sont les plus nombreuses, c'est-à-dire à l'hôpital. Bonjour Stéphane Pénary.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Metal Skin Technologies. Votre entreprise existe depuis 2007, près de Montpellier. Vous avez mis au point un revêtement qui a une action bactéricide. Mais en fait, l'histoire commence bien avant. Vous êtes dans le design, dans la déco. Quand vous découvrez la métallisation, et c'est quelque chose qui vient des États-Unis.
Tout à fait. C'est une technique qui nous a permis, lors de mon ancienne activité, de contourner pas mal de problématiques techniques. C'est-à-dire que c'était compliqué à faire en métal, c'était lourd, c'était onéreux. Et la métallisation permet d'utiliser le métal en fine pellicule. Donc on a développé tout un savoir-faire qui a donné lieu à la création d'une société pour justement développer ce savoir-faire. Et un jour, on est tout simplement venu nous demander de réaliser des abattants de WC en cuivre. Et là, je me suis rappelé que mon grand-père, sur le faîtage de sa grange, mettait un fil de cuivre pour empêcher les mousses de se développer. Et donc, si mon grand-père avait eu cette idée-là, c'est que c'était une bonne idée. On a rebondi là-dessus.
Oui, parce qu'en fait, le cuivre est bactéricide.
Depuis la nuit des temps, les Phéniciens mettaient ça sur leurs bateaux pour éviter que les organismes se développent sur les coques. Et donc, on a repris au bon cette idée-là. Il a naturellement une action biocide en perforant la membrane des bactéries et en les tuant, tout simplement.
Alors, vous commencez les recherches. Vous regardez notamment des techniques pour qu'il ne s'oxyde pas, parce que c'est la principale difficulté avec le cuivre.
Alors, le cuivre, il s'oxyde. On ne va pas pouvoir l'empêcher. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est efficace. En revanche, c'est le vieillissement, la façon dont il s'oxyde.
C'est moche.
Ouais, exactement. C'est pas super.
Oui.
Donc, le gros du travail était de chercher un alliage qui permette de combiner à la fois son action et une stabilité esthétique. Donc on a réussi à trouver cette espèce de coloris qui est un cuivre oxydé en réalité, mais qui reste pérenne dans le temps. Donc ça a été le gros du travail.
Oui, et vous trouvez fin 2012, c'est ça ?
Fin 2012, on arrive enfin oui, au bout de ce premier process, mais là, la fête est finie en fait.
C'est là que ça commence en fait, parce que vous arrivez à convaincre un groupe de santé de vous laisser développer la matière dans un des couloirs de son établissement.
Oui, ça a été un préalable qui me semblait indispensable, c'est-à-dire de valider in situ la pertinence de ce choix-là. Donc une étude clinique, qui va être bientôt publiée d'ailleurs, a été conduite et dans un service de chirurgie orthopédique et qui a démontré qu'on avait une solution très pertinente. Et c'est à partir de là qu'on a dit « Ok, on en fait une vraie aventure ».
Donc on en fait maintenant un revêtement qui peut aller au sol, qui peut aller sur les murs, sur les portes.
Il peut aller à peu près partout. Après, vous avez vu sa couleur. Donc si on commence à le mettre partout sur les sols, tout ça, ça va être un petit peu lugubre. Non, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les points de contact manuels dans un premier temps. Car on a pour vocation d'être le chaînon manquant entre la désinfection des surfaces et la désinfection des mains. C'est-à-dire qu'on n'est pas quelque chose qui va remplacer tout, bien au contraire, on est une arme supplémentaire. Donc on se focalise sur les poignées de porte, les interrupteurs, les robinets, les mains courantes, ça va être le plateau repas, ça va être tout ce genre d'objets, je vois les claviers, les souris informatiques, les coques de téléphone, tous ces éléments qui passent de main en main et de surface en surface et qui, entre ces passages-là, ne sont pas désaffectés.
Transmettent tout un tas de choses. Vous avez mis le revêtement en place sur 7 points de contact dans 3 chambres. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans 100% des cas, il y avait moins de bactéries sur les surfaces non traitées et que dans 80% des cas, Il y avait zéro.
Ça, c'est le résultat qu'on obtient très souvent avec Metal Skin. Quand on fait un test, le décompte après grosso modo entre 3 et 10 minutes, c'est quasiment zéro. Ouais, tout à fait.
Que dit notre coach, Laurent Chouin ?
Le coach, c'est un béotien, donc il va vous poser une question bête. Dès l'instant où on pense des choses qui sont désinfectantes ou autres, on voit aussi qu'il peut y avoir à l'inverse, en regard, une nocivité de ces produits-là. Est-ce que là, il y a des aspects collatéraux nocif dans votre produit?
Alors, le gros avantage de travailler avec le cuivre, c'est que le cuivre est au contact de l'homme depuis la nuit des temps. Certains dispositifs contraceptifs sont réalisés en alliage de cuivre. On les a sur les bijoux, Donc, si le cuivre était l'ennemi de l'homme, on le saurait. D'autant que nous, on en utilise une toute petite quantité. C'est une épaisseur de 200 microns, donc 0,2 mm, chargé en cuivre, avec un alliage très chargé, certes, pour avoir une efficacité, mais c'est un traitement qui ne s'érode pas. On a une durée de vie de plusieurs années sur une poignée de porte. En fait, la durée de la poignée de porte.
Donc c'est sans danger.
C'est sans danger.
Elisabeth, c'est quoi la différence entre une bactérie, un virus, un microbe ?
On va essayer de faire simple, hein, parce que c'est quand même assez compliqué.
Docteur Assayas.
Les bactéries, ce sont des organismes vivants qui ne sont constitués que d'une seule cellule. C'est ce que l'on appelle donc elles sont unicellulaires. Elles sont capables d'assumer des fonctions élémentaires propres aux vivants, c'est-à-dire qu'elles peuvent se reproduire, elles peuvent transmettre une information génétique, mais aussi tirer matière et énergie de l'environnement. Les microbes, qui signifient petite vie, eux ne se voient qu'au microscope et provoquent aussi des maladies. Quant au virus, le virus, ça veut dire poison en latin, le virus représente un agent infectieux. C'est une capsule en protéines qui protège un brin de matériel génétique qui code pour lui-même et qui code pour la capsule. Et pour se multiplier, le virus est environ 20 fois plus petit qu'une bactérie et les virus sont eux aussi à l'origine de nombreuses maladies.
Stéphane Pennari, vous avez des développements prévus, évidemment, avec cette matière, ce metal skin que vous avez inventé. Vous êtes déjà présent dans pas mal d'établissements de santé.
Oui.
L'idée, c'est maintenant de l'emmener à l'international.
Alors,
vous y êtes déjà ?
Exactement. On y est déjà. On démarre par deux canaux. D'abord, les éléments de contact tels qu'ils nous viennent spontanément à l'esprit, comme les poignées de porte, les interrupteurs. Là, on a déjà équipé deux cliniques entièrement en France, une à Montpellier et une à Melun, en région parisienne. On est spécifié sur une vingtaine de programmes en cours. Et là, j'arrive de Chine, où le gouvernement a mis en place un programme très ambitieux de développement des infrastructures de santé. C'est de l'ordre de 1000 hôpitaux par an. Et les Chinois m'ont demandé si, ma foi, j'étais apte, en tout cas, à produire pour équiper leurs hôpitaux.
Donc, la réponse est oui ?
La réponse est oui, parce qu'il ne faut pas dire non dans ces cas-là. Et maintenant, on trouve les moyens.
Voilà. Oui, parce que vous comptez vous développer, vous avez besoin d'argent pour ça, vous cherchez à faire une levée de fonds, vous avez tablé sur 3 millions d'euros ?
C'est ça, alors trouver les moyens, ça revient à ça. Ce n'est pas tellement des moyens techniques, puisqu'on arrive aujourd'hui à s'équiper, à s'appuyer sur des sociétés performantes. C'est plus des moyens humains qu'il va falloir mettre en œuvre pour gérer ça.
Pour pouvoir recruter. On reste ensemble et on continue à parler justement de ces maladies qui nous embêtent pendant l'hiver et des moyens que les Français ont inventés pour essayer de les tenir à bonne distance. À tout de suite.
Il est 13h18.
Europe 1.
Restez avec nous, la principale source de contamination, et vous l'avez dit, c'est les mains. Alors une start-up développe des moyens pour les soignants de tracer leur hygiène. A tout de suite.
Dans la France bouge cet après-midi, un dossier consacré aux solutions pour éviter la propagation des bactéries. Et vous, êtes-vous sensible à toutes ces bactéries qui nous entourent ? Prenez-vous des mesures pour tenter de vous en prémunir ? Dites-le nous via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous, Raphaël, au 3921.
On a tous appris, hein, dès notre plus jeune âge, qu'il faut se laver les mains régulièrement pour des questions d'hygiène et de transmission de maladies. C'est encore plus vrai quand on est en milieu hospitalier. Alors pour aider les soignants, eh bien une start-up a inventé la possibilité de tracer les soins et l'hygiène des mains. Bonjour Francine Lanceleur.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des fondatrices de MediHandTrace. C'est un physicien et un professeur de médecine, hein, qui vous ont approché pour venir justement développer avec eux cette solution. Ils sont partis d'un constat qui est assez simple, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de maladies nosocomiales répandues dans les hôpitaux. Ils se sont demandé si en traçant justement l'usage des produits d'hygiène par le personnel, on ne pouvait pas réduire finalement ces maladies.
Tout à fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, au niveau de l'OMS, 40 à 70% des infections nosocomiales trouvent leur origine dans une mauvaise hygiène des mains. Donc c'est vraiment un sujet prioritaire également au niveau de l'OMS et décliné bien sûr dans les différentes entités de santé dans les différents pays du monde, en France par la Haute Autorité de Santé notamment. L'hygiène des mains, c'est quoi? C'est prendre un petit peu de solution hydroalcoolique en quantité suffisante. Tout ça, c'est réglementé. Vous mettez ça sur vos mains avec un certain nombre de frictions très précises qui vous permettent en fait de tuer les virus et les bactéries que vous avez sur les mains, de façon ensuite à pouvoir toucher le patient sans transmettre ce que vous portez. Et après le contact avec le patient, vous vous redésinfectez les mains pour éviter justement de transmettre ce que le patient a dans une autre chambre.
Oui, parce que les soignants véhiculent évidemment forcément sur leurs mains des bactéries, des microbes qui peuvent passer de chambre en chambre.
Voilà. À partir du moment où on fait le soin d'un patient, quel que soit le degré de soin, nécessairement on est en contact. On n'a pas forcément toujours des gants pour pouvoir se protéger et pour pouvoir protéger le patient parce que tout dépend du soin qui est à effectuer. Et donc, mécaniquement, la nature fait que les bactéries, les virus se transposent en fait d'une personne à l'autre.
Mais il y en a dans chaque chambre d'hôpital des solutions comme ça. On les voit, le personnel soignant à chaque fois se laver les mains avant, après. Alors, moi, c'est l'image que j'en ai en tout cas.
Alors, c'est le chaque fois qui pose problème en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple en France, vous avez un indicateur qui s'appelle l'indice de consommation de solutions hydroalcooliques qui est basé non pas sur la quantité de gel ou de solution utilisée dans le distributeur au plus près du patient, mais sur la quantité qui est livrée dans chaque service. Or, ces produits-là ont une date limite. Mmh. Et donc, s'ils restent sur les étagères, ben, les distributeurs sont vides, tout simplement. Et même si le soignant fait le geste, il ne se passe rien derrière.
Donc, vous avez imaginé une solution qui peut résoudre justement cette problématique-là ?
Tout à fait. L'idée, c'est de savoir à tout moment s'il y a du gel qui est disponible dans le distributeur. Pour savoir ça, on a développé en fait un dispositif électronique qu'on rajoute dans le distributeur et qui envoie la donnée de placement d'un flacon et de prise de solution sur un logiciel qui va permettre d'analyser l'activité de chacun des distributeurs dans un service ou dans un établissement complet.
Une fois qu'on a analysé, est-ce qu'on peut prévenir le soignant? Je crois que c'est quelque chose qui est en cours. Prévenir le soignant qu'il a oublié justement de passer par la solution?
Tout à fait. En fait, on a deux produits. On a la version anonyme qui donne l'information, non pas en temps réel, mais un feedback a posteriori. Mais nous avons également une solution qui trace les individus, qui est plus utilisée au niveau recherche et qui permet instantanément de dire « Ok, vous êtes rentré dans la chambre, vous êtes passé devant le distributeur, vous ne vous êtes pas désinfecté les mains, bip, vous revenez ou vous ne revenez pas, que vous reveniez ou que vous ne reveniez pas, l'information est analysée par le logiciel derrière pour pouvoir donner un feedback plus général et savoir ce qui s'est passé. »
Notre coach, Laurent Chouard.
Comme pour la Formule 1, là, vous développez une solution pour les hôpitaux, mais finalement, ça peut servir plus largement. On a, nous, des solutions aussi hydroalcooliques dans la vie de tous les jours. Et dessus, souvent, on nous dit, ben, une fois que vous l'avez fait, c'est valable 2 heures.
Oui.
Et là, vous êtes en train de dire qu'en réalité, dès que vous sortez d'une chambre, il faut repasser par ce phénomène-là, parce qu'il n'y a pas de durabilité, finalement, de la protection, c'est ça?
Alors, je ne saurais pas vous répondre sur le plan de la chimie. Mmh. Moi, j'interviens sur l'objet connecté qui va relever le fait de prendre.
Le tracker, en fait.
Voilà, exactement. D'accord. Donc, je préfère ne pas rentrer au niveau chimique.
Mais il vaut mieux le refaire régulièrement,
absolument,
c'est ça que vous
dites. Absolument, tout à fait. Mmh. Tout simplement parce que lorsque vous rentrez dans une chambre avec, par exemple, un patient qui a ce qu'on appelle du clostridium, normalement, vous utilisez des gants, mais ce sont des spores qui se posent également sur les gants, sur les mains. Si vous n'avez pas porté les gants, même avec le gel hydroalcoolique, vous transportez les spores dans la chambre d'à côté. Et là, c'est pas bon du tout.
Elisabeth, vous avez trouvé d'autres entreprises qui nous protègent des bactéries?
Il y a un laboratoire qui a 35 ans, qui s'appelle Célonde, c'est le spécialiste français de l'hygiène des mains. Pardon. Il commercialise une gamme de produits en tube, avec ou sans rinçage, à base d'ingrédients d'origine naturelle et des microbilles issues de cellulose ou de pierre ponce.
On reste ensemble et on continue à parler hygiène aujourd'hui et à tenir, décidément on en a besoin, vous et moi, à tenir à distance les bactéries sur Europe 1.
Il est 13h26. Europe 1.
Et vous allez voir que ça se passe dans les hôpitaux, on en a parlé, mais ça se passe aussi tout autour de nous, en entreprise ou bien dans les transports. Justement, des étudiants ont inventé un système qui va parler à tous ceux qui prennent en ce moment le bus ou le métro. À tout de suite.
Dans la France Bouge cet après-midi, on parle de toutes ces bactéries qui prolifèrent autour de nous et de solutions pour s'en prémunir. Si vous souhaitez réagir, poser des questions par exemple à nos invités, appelez-nous au 3921 ou alors écrivez-nous via Twitter, hashtag Europe 1 Raphaël.
On a tous réfléchi à deux fois, c'est vrai, avant de saisir la barre du métro pour s'accrocher quand la rame est bondée, car il ne faut pas être grand clerc pour savoir que s'y trouve rassemblé tout un tas de choses qu'on ne devrait pas avoir à toucher. Bonjour Ambre Potier.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vous aussi usagère du métro, hein, comme nous tous. C'est comme ça qu'avec vos trois cofondateurs, vous avez eu l'idée de créer Bugless. Alors Bugless, c'est quoi? C'est une poignée hygiénique portative pour réduire justement la prolifération des bactéries dans les transports en commun. L'idée, clairement, elle part d'une expérience personnelle.
Exactement. Nous sommes tous les quatre étudiantes, donc du coup en Master 2 à la Sorbonne. Et nous avons tous les jours pris le métro. Et nous nous rendons compte que c'est un problème quotidien que vivent des millions d'utilisateurs. On parle de 4 millions d'utilisateurs sur le réseau francilien français. Et dans ces cas-là, quoi faire? Parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc on voit des personnes avec un mouchoir. On essaye de tenir en équilibre. Ce n'est pas évident. Donc du coup, nous, nous avons trouvé cette solution de la poignée portative hygiénique pour éviter justement ce contact avec la barre ou avec tout ce qui nous entoure. Ça peut être les murs du métro pour tout simplement s'accrocher. Voilà la solution.
Cette solution, c'est en 2018 en fait, hein, que vous en avez eu l'idée quand on vous a demandé de créer dans le cadre de vos études un bien de service, c'est ça?
Exactement. Nous avions un cours qui s'appelait création d'entreprise et nous devions créer justement un bien ou un service et réaliser un business plan pour ensuite pitcher. Nous avons eu cette idée assez rapidement car nous voulions vraiment quelque chose d'innovant. Donc ça a beaucoup plu à notre famille, à nos amis. Donc on a vu vraiment une évolution et 4 mois après à peu près, nous avons décidé de participer au concours Lépine que nous avons remporté.
Ouais.
Ils nous ont directement pris...
Ça a été médaille de bronze.
Médaille
hein.
de bronze, voilà, la 3e place pour un projet... qui n'était pas tout à fait terminé. Nous sommes encore sur un prototype. Donc voilà, il y a vraiment besoin encore d'évoluer sur ce prototype qui est en 3D pour le moment. Mais voilà, nous réfléchissons aussi à son avenir. Nous cherchons également, pourquoi pas, un partenaire financier pour nous aider à développer ce projet. Parce qu'évidemment, pour l'instant, nous avons à peine terminé nos études. Mais l'idée, c'est vraiment de se lancer ce projet qui nous tient à cœur. Et nous savons pertinemment que c'est un produit qui va fonctionner. Nous avons rencontré sur le concours Lépine tous les visiteurs qui nous ont déjà montré leur...
Oui.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que nous recevons aussi via notre page Facebook beaucoup de gens qui souhaiteraient déjà acheter notre produit. Donc ça nous met du baume au cœur.
Il va falloir attendre un petit peu, mais il y a quelqu'un de chez Airbus hein, qui vous a aidé à développer le premier modèle, le prototype en 3D, je crois.
Exactement, on a une amie de Guilherme qui fait partie de mon équipe, a eu une très bonne connaissance chez Airbus qui nous a designé le projet en 3D pour nous permettre ensuite de pouvoir l'imprimer dans des imprimantes 3D justement, avec l'aide d'un professeur qui nous a donné son contact. Donc voilà, c'est aussi grâce à nos professeurs, grâce à notre famille et nos amis que nous avons pu mener à bien ce projet et nous espérons un bel avenir, en tout cas pour Bugless.
D'autant qu'une autre personne avant vous, en fait, avait déposé un brevet, mais avait tenté de lancer ce produit, mais ça n'avait pas fonctionné. Du coup, aujourd'hui, il vous aide aussi.
Tout à fait, il a déposé ce brevet en 2013. Nous avons appris par la suite que le brevet avait été déjà déposé. Et cette personne-là est d'une grande aide, nous aide justement à avoir ce projet à terme, parce que c'est un projet lui aussi qu'il aimerait voir le jour c'est vraiment un super contact et on le remercie encore de nous soutenir.
Laurent Choin, notre coach.
Vous êtes une professionnelle du pitch, donc ça va être facile pour vous de répondre. Mais des gens qui finalement seraient prêts à investir dans une poignée comme ça sont aussi des gens qui d'ores et déjà pensent à mettre des gants, par exemple. C'est quoi l'avantage par rapport à mettre un gant ou...
Tout à fait, ça c'est une question qui revient beaucoup, l'histoire du gant. Ce que nous répondons au fait que justement le gant n'est pas utilisable durant toute l'année. Vous n'allez pas mettre un gant, on a eu 45 degrés à Paris l'été dernier, évidemment.
Ça, un gant réfrigéré, c'est une prochaine entreprise de cette émission.
Ça, c'est le prochain concours Lépine.
Exactement. Mais évidemment, la solution aussi, ce serait de pouvoir garder cette poignée, de pouvoir la nettoyer en rentrant chez soi et de pouvoir la réutiliser. Donc là, il y a un aspect aussi...
Grâce à Francine.
On la nettoie n'importe comment ou il y a une façon particulière pour tout retirer?
Alors, l'idée, ce serait qu'elle puisse passer à la machine à laver, dans votre lave-vaisselle, mais évidemment, vous pouvez la nettoyer vous-même avec du savon et de l'eau. Ça, ce serait l'idéal aussi.
Comment vous allez faire pour développer votre projet? Vous en êtes où? Vous avez des contacts?
On a des contacts, mais c'est vrai que pour l'instant, nous allons travailler aussi sur son design, parce que nous savons que notre poignée n'était pas très esthétique. Évidemment, elle sortait d'une imprimante 3D. Donc ça, c'est sur un projet sur lequel on travaille. Et aussi la manière de la transporter, parce qu'évidemment, là, pour le moment, elle n'est pas transportable, puisqu'il faudrait trouver un système pour la fermer et pour la rendre aussi hygiénique. Ça, c'est l'idée, parce qu'évidemment, là, quand vous la voyez, je ne sais pas si vous avez pu la voir, elle n'est pas du tout... vous ne pouvez pas la mettre dans votre sac comme ça. Donc l'idée, ce serait de travailler, continuer à travailler dessus pour pouvoir la sortir d'une belle manière.
Vous avez décidé maintenant de vous lancer véritablement dans ce projet ou vous hésitez encore?
Non, moi, j'hésite pas du tout. Comme tous mes collègues, on sait que ce produit, voilà, je le répète, on sait que ce produit va marcher. C'est le projet de notre fin de carrière et on aimerait vraiment se lancer.
Notre fin de carrière,
fin de carrière. Fin d'études. Et justement, pour lancer ma carrière, donc dans cette poignée qui, je sais, va révolutionner notre quotidien à tous, utilisateurs de métro, de bus.
Elisabeth, pour combattre les bactéries, il y a quand même des choses toutes simples.
Mais on le voit depuis le début de ce dossier du jour. Ça passe par les mains, on le voit. Et donc, il faut respecter des mesures d'hygiène élémentaires pour prévenir la pénétration des bactéries dans notre organisme. Alors, évidemment, il faut se laver les mains après être passé aux toilettes. Il faut s'assurer de l'eau, il faut qu'elle soit bien potable. Ça aussi, on n'y pense pas souvent quand on voyage loin. Il faut s'assurer que l'eau est bien potable. Il faut désinfecter des plaies. Il faut se protéger aussi lors des relations sexuelles parce que là aussi, il peut y avoir des bactéries. Et malgré toutes ces précautions, une infection peut survenir. Mais attention, ce n'est pas la peine non plus de paniquer à chaque fois parce que nous avons, et fort heureusement, un système immunitaire qui est en mesure de combattre tous ces corps étrangers.
On reste ensemble et on continue à parler bactéries aujourd'hui et les moyens de les tenir loin de nous. Il est 13h36.
Europe 1.
Et on vous attend, 3921, Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous. A tout de suite.
Europe 1.
Dans la France bouge cet après-midi, une question, comment éviter la propagation des bactéries? Vous nous en parlez, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Nous sommes avec Stéphane Penary, fondateur de Metal Skin Technology, Francine Lanceleur, cofondatrice de Media on Trace, et Ambre Potier, cofondatrice du projet Bugless. Notre coach aujourd'hui, c'est Laurent Choin, DRH de Mazar. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Et je crois que nous avons un appel au 3921. C'est Joël qui l'a composé. Joël qui est à Paris. Bonjour Joël.
Oui, bonjour. J'étais juste pour raconter quelque chose de très bref, mais que j'ai trouvé quand même
écoute.
Moi, il y a 2 ans, j'étais en attente dans un hôpital qui avait rien à voir avec la toux, etc. C'était un truc qui touchait la rhumatologie. Je sortais d'un cancer où j'avais eu l'opération, les suites, le traitement.
Oui.
Et je me suis trouvée avec un autre groupe à attendre. Et ça durait presque 2 heures. Et il y avait une dame qui toussait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on était pourtant à l'hôpital. Il y a du personnel médical, paramédical. Tout le monde est passé dans tous les sens. Personne ne lui a proposé ni un masque, ni quoi que ce soit. Et ben moi, résultat des courses, ça c'était un lundi. Le jeudi, dans la nuit, j'ai été transportée en urgence à l'hôpital, puis pour une bonne pneumonie, vous voyez.
Ah oui, donc vous pensez que effectivement vous avez attrapé cette maladie en étant en contact avec cette personne.
J'aurais téléphoné à l'hôpital, ils m'ont fait leurs excuses en disant, parce que je pense qu'il y a peut-être que... Je n'ai peut-être pas été la seule à avoir ce genre de truc. Parce qu'on était nombreux à attendre. Oui. Et on a attendu presque 2 heures. Hein. Alors la dame, elle a eu le temps de toucher, bien toucher.
Oui, de contaminer les gens qui étaient autour d'elle. Francine Lanceleur va vous répondre parce qu'on ne se rend pas forcément compte. On est parfois dans des environnements très ouverts et il y a des gens qui sont malades à côté de nous. Comment est-ce qu'on peut se protéger? Les masques, c'est une bonne solution. On parlait des mains, mais...
C'est une bonne solution, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une infection est considérée comme étant nosocomiale après avoir passé 48 heures à l'hôpital. Donc, Joël est allé à l'hôpital le lundi, elle est tombée malade le mercredi, ça fait 48 heures, c'est logique, effectivement.
Donc, c'est le cas.
Tout à fait. Alors, là, on ne parle pas d'hygiène des mains, effectivement, lorsqu'il y a de la toux, mais effectivement, il faut porter un masque lorsqu'on tousse. Il faut aussi pouvoir demander un masque lorsqu'on a des personnes qui toussent dans son entourage. Et c'est comme pour l'hygiène des mains, n'hésitez pas, en tant que patient, en visite dans un établissement de santé ou même ailleurs, de solliciter en fait du gel hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains, parce que pour vous protéger, vous désinfectez également les mains. C'est pas uniquement pour protéger les autres, ça marche dans les deux sens, les contaminations.
Ce sont des recommandations qu'on peut mettre en œuvre un peu partout, y compris en entreprise.
Y compris en entreprise, et typiquement, un de nos clients est une ferme au Canada qui souhaite préserver en fait son cheptel de volaille. Pour s'assurer notamment qu'il n'y a pas de contamination de la part des ouvriers qui viennent de l'extérieur lorsqu'ils manipulent la volaille.
Notre coach, Laurent Choin.
Oui, j'avais une question en particulier pour Stéphane, parce qu'on voit bien les applications pour Francine et pour Ambre, mais ma question c'était, est-ce que demain on pourrait imaginer que Metal Skin, ce soit pas un usage professionnel par des professionnels, mais ce soit disponible pour nous tous?
Alors ça, c'est bien sûr un objectif que l'on a dans l'arrière de notre tête, chez Metal Skin. On a des brevets qui soutiennent cette volonté. Dans un premier temps, on imagine nous l'adhésif, qui serait un rouleau...
Oui, plutôt que le spray. Quoi.
Le spray, c'est toujours délicat dans la mesure où pulvériser du métal, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc il vaut mieux le faire en usine.
Un rouleau de scotch que je pourrais par exemple mettre sur la table ici à Europe 1.
Absolument, c'est l'idée. Et qui aura les mêmes propriétés que notre poignée de porte. Il faut savoir que ces propriétés-là aujourd'hui sont normées, qui plus est. Donc on a des seuils de qualité que l'on peut revendiquer et qui nous permet d'assurer une qualité hygiénique.
Elisabeth.
Pour les bonnettes aussi, ce serait possible.
Bonnettes en métal, ça serait une bonne idée. En toute hypothèse, c'est faisable.
Et j'ai une deuxième question, si je peux, Raphaël.
Bien sûr.
À vous trois, en fait, finalement. Est-ce que là, on est en train de monter beaucoup le niveau des protections individuelles? Et est-ce que ça, par rapport à ce qu'on avait fait avant, ça ne nous fait pas descendre notre niveau d'immunité à nous aussi, finalement? Est-ce que ça ne nous rend pas plus vulnérables, finalement, être plus protégés?
Plus fragile, oui.
Alors, je peux démarrer. Aujourd'hui, il y a 5% des patients qui sont hospitalisés qui contractent une infection d'une bactérie qu'ils n'avaient pas en arrivant. D'accord. Donc, ce risque-là, c'est 750 000 personnes par an. Donc, ce n'est pas rien. Donc, ce risque-là, on peut toujours s'imaginer que si on vient le combler, on réduit le risque, enfin, on réduit la défense immunitaire. Très concrètement, je pense qu'il faut d'abord combler le risque et ensuite on verra l'effet sur les défenses immunitaires. Je pense que dans la vie de tous les jours, on est suffisamment exposé aux bactéries pour que dans certains environnements privilégiés, tels que l'hôpital, réduire ce risque au maximum. Ça me semble être la base.
Francine Lanceleur.
Oui, alors on est tous couverts de bactéries déjà d'une manière générale. Ça se transforme en maladie lorsqu'on devient ce qu'on appelle immunodéprimé. C'est-à-dire on est plus fatigué, plus stressé,
etc. Qu'on a nos défenses qui ont baissé. Hein,
les défenses ont baissé, voilà, exactement. Et là, il y a une de ces bactéries, effectivement, qui vient prendre sa place et qui nous rend malade. Donc, ce n'est pas tellement le niveau de protection individuelle qu'on rajoute, c'est plutôt, je dirais, notre vie au quotidien qui va faire qu'on est susceptible de transformer une bactérie en maladie pour soi-même.
Ambre Potier.
Oui, et puis moi, je parlerai aussi de confort. L'idée de Bugless, cette poignée portative, c'est aussi de pouvoir sentir bien. Déjà que nous supportons les mauvaises odeurs du métro ou les transports en commun, j'imagine que...
C'est un réconfort psychologique.
Voilà aussi, je pense, au-delà du fait de ne pas toucher ces lieux que nous savons contaminés, c'est aussi se sentir bien pour aller au travail. Voilà, nous sortons de la douche, on est tout propre. Voilà, l'idée de pas également toucher d'autres lieux, parce que voilà.
Et vous avez bien noté que je n'ai pas précisé ce qu'on trouvait exactement sur les rampes de métro, sinon
je crois
qu'on aurait fait fuir pas mal de monde.
Je le sais.
Dernière précision, vous êtes sur des projets, Stéphane, notamment pour la construction de bateaux, les versions souples, hein, on en a parlé de Metal Skin, pour aussi les rampes de métro, les poignées, etc., etc., etc.
Oui, le champ applicatif est très important. Alors, les coques de bateaux, c'est une application très spécifique. C'est pour éviter que les bateaux se chargent en organismes vivants qui vont les freiner et donc générer des consommations supérieures. Donc, on a quelque chose qui nous permet de conserver une glisse parfaite. Et après, oui, toutes les applications dans les lieux publics. Alors, il y a les barres de métro, bien entendu. Il y a également les mains courantes des escalators dans les centres commerciaux, par exemple.
Ça
fait partie des grands champs applicatifs sur lesquels on travaille.
Il y a de quoi faire, effectivement.
Oui,
merci à tous les trois d'être venus nous aider à nous protéger aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h46.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, bien sûr. Elle n'a que 10 ans d'existence. Elle s'est spécialisée dans les solutions pour l'industrie automobile. Wizz est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est Wizz Group. Ça s'écrit WYZ. Bonjour Pierre Guirard.
Bonjour Raphaël, merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui l'avez créé il y a 10 ans, hein, on était en 2009, après avoir travaillé, je crois, pendant 17 ans chez Continental, qui est un géant du pneu. Du coup, en 2006, vous vous dites, j'ai envie de changement, j'ai envie d'en savoir plus sur la mécanique, comprendre un petit peu ce qui se passe, et vous reprenez vos études.
Oui, je pense que à 40 ans, on est porteur d'expérience. Par contre, il est également important, je pense, de se remettre à niveau d'un point de vue théorique. Et je cherchais notamment à découvrir les nouveaux modèles économiques. On voyait beaucoup apparaître avec l'aide d'Internet. Et donc, en 2006, je reprends mes études. Ça dure 18 mois. Et là, c'est le déclic.
C'est le déclic? C'est-à-dire que vous vous dites, j'ai véritablement envie de créer mon entreprise, ou vous aviez toujours eu envie?
Non, j'avais toujours eu cette fibre au fond de moi-même, mais... il me manquait, je pense, un petit peu d'assurance que les études m'ont donné. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai su que j'allais créer. Je ne savais pas exactement quoi, je ne savais pas exactement comment, avec qui, mais en tout cas, j'étais sûr de créer quelque chose.
Alors justement, le quoi, il vient très vite aussi, parce que vous vous dites, on va digitaliser l'univers du pneu. Ça s'impose parce que finalement, vous vous rendez compte qu'en allant chez vos clients, à chaque fois, y a des pénuries, il y a tel pneu qui manque, on n'a pas fait assez de stock, on ne sait pas où trouver les pneus. Et vous vous dites, il y a peut-être un chaînon manquant.
C'est ça, c'était une vraie frustration profonde en fait. Chaque fois que je passais le pas d'une porte en tant que commercial, directeur marketing, chaque fois j'étais exposé au même grief, c'est-à-dire vous m'avez demandé de m'engager sur 1000 pneus, vous m'en livrez 850. Et je me suis dit que le consommateur, finalement, il devait avoir accès à 100% des produits de manière permanente et qu'il y avait sûrement quelque chose en retournant le modèle et en essayant de s'occuper non pas des 850 mais des 150 pneus manquants. Et du jour au lendemain, on a créé Wizz, on est un peu devenus les Pères Noël du pneu.
C'est-à-dire, comment vous avez fait ?
L'idée, en fait, c'était de convaincre, en fait, tout d'abord des distributeurs de l'utilité d'avoir un taux de disponibilité proche de 100%. À partir de là, fort de quelques clients, j'ai pu aller discuter avec des grossistes un petit peu partout en Europe. Et avec le savoir digital qu'on avait avec mes associés, on a réussi à créer un ensemble qui nous permet de gérer des flux sans avoir de stock, mais en permettant aux distributeurs d'avoir en permanence la possibilité de commander les pneus de n'importe quelle marque, n'importe quelle dimension, et Dieu sait si c'est compliqué, et dans n'importe quel lieu de France, et maintenant à l'international également.
Oui, parce que vous avez réussi, ça c'est quand même un tour de force, à fédérer les stocks partout en Europe, en tout cas c'est en cours.
Oui, c'est ça, en fait les industriels produisent de plus en plus, et de plus en plus vite, et veulent absolument écouler leurs produits très très rapidement, et donc il y a des grossistes qui, un peu partout en Europe, ont constitué des stocks, sont des spécialistes de la logistique et du transport. Et nous, en fait, on fédère ces gens-là et on a réussi à pénétrer notamment le monde des constructeurs automobiles pour permettre à ces concessionnaires automobiles d'avoir une disponibilité maximale.
Oui, parce qu'en 2010, c'est Chevrolet qui s'engage. L'année d'après, c'est Nissan. Vous arrivez à résoudre un problème, finalement, pour eux.
Oui, c'était ça. C'était vraiment profond. Et je me souviens d'un rendez-vous chez Nissan où il y a une dimension qui a été demandée et c'était pour moi le jackpot. C'était soit on l'a trouvé et c'était signé, soit on ne la trouvait pas et on l'a trouvé tout de suite. Et
comment
en avait
vous
pas.
Avez fait pour la trouver?
Parce qu'on avait réussi à en trouver dans certains stocks, à l'étranger notamment. Et ce jour-là, en France, il n'y en avait pas, mais nous, on a su en trouver en Allemagne et donc à les acheminer en 2 jours.
Oui. Et aujourd'hui, vous avez 15 constructeurs en tout qui vous font confiance, c'est ça?
Oui, quasiment 95% des constructeurs nous font confiance. Il en reste encore un petit peu. Et puis maintenant, ce que l'on essaie de faire, évidemment, c'est de dupliquer ça dans tous les pays au niveau européen.
Notre coach.
Vous avez
Laurent
dit dans une interview quelque chose qui a fait dresser l'oreille, qui était notre ADN, c'est la disruption. Mais en fait, là, en vous écoutant, je me dis c'est plus le complément par rapport à une industrie existante. En quoi vous êtes disruptif? C'est quoi la disruption derrière ça?
Alors, je dirais que notre principale activité, c'est celle-là, mais on a aussi d'autres activités parallèles qui viennent compléter en fait notre offre, où on essaye effectivement systématiquement de repartir du besoin du client final, d'oublier la distribution dans un premier temps, pour ensuite essayer de calculer quels sont les chaînons manquants. Et la disruption est dans la façon d'inverser le modèle. Par contre, évidemment, on vient s'imbriquer dans un paysage déjà existant. Et justement, tout notre entre guillemets, réussite, ça a été de convaincre les acteurs en place qu'on n'était pas contre eux, on était avec eux.
C'est-à-dire que vous venez compléter l'offre existante?
On vient compléter l'offre existante et surtout, on ne rentre pas, pour avoir travaillé pour un industriel pendant quelques années, je connais les moyens des industriels et notre objectif était vraiment de ne pas rentrer en concurrence avec eux. Ce n'était pas du tout l'objectif, on aurait perdu, mais plutôt de venir compléter, d'amener de la valeur ajoutée. Ils nous ont regardé pendant longtemps un peu de manière, avec beaucoup d'interrogations, voilà. Et aujourd'hui, ils nous ont acceptés et plutôt même aidés.
Vous êtes en France, vous êtes au Benelux, vous êtes en Espagne, au Portugal et bientôt vous serez en Allemagne, c'est ça?
C'est ça, c'est le prochain défi. Alors vous savez, quand vous travaillez dans l'industrie automobile, c'est sûr que l'Allemagne,
c'est
le Graal.
C'est important.
Voilà, donc il fallait qu'on soit prêt, prêt avec nos outils, prêt avec nos partenaires et puis prêt avec nos clients, que des gens nous fassent confiance. Et donc voilà, le top départ, c'est pour premier trimestre 2020.
45 millions de chiffre d'affaires cette année, la suite c'est quoi, dites-moi?
Alors on a une croissance de 32% par an depuis 7 ans, donc c'est très régulier. L'avantage, c'est qu'on est dans la création de valeur, donc on s'appuie sur des clients qui sont des clients fidèles. C'est pour ça que notre chiffre d'affaires croît de manière régulière. Donc là, les prochaines étapes, c'est évidemment l'internationalisation, ça c'est un point important. On a discuté d'abord dans les pays, maintenant on commence à discuter de manière intéressante au niveau européen, dans les sièges des constructeurs, donc on a déjà deux accords européens. Et donc, l'idée, c'est de dupliquer dans chacun des pays et puis amener d'autres services, un peu d'innovation encore dans le service ou dans le marketing.
Comme par exemple?
Par exemple, les livraisons deux fois par jour. Alors, je vais parler de la France, quelque chose qui n'est pas très reconnu en Espagne, par exemple, ou sur certaines villes, les gens livrent quatre fois par jour. En France, c'est un peu moins le cas, mais quand vous avez un problème, vous devez partir au ski. Pour prendre un exemple très parisien, vous devez partir au ski, vous n'avez pas de pneus hiver. Peut-être vous êtes content d'être livré dans l'après-midi, pouvoir partir le vendredi soir tranquille sur les pistes.
Ça s'appelle Wiz et c'est l'entreprise qui va bien aujourd'hui. Merci Pierre Guérard d'être venu nous en parler. Merci à Laurent Chauhin qui était notre coach DRH de Mazars. Elisabeth, Céline, on se dit à demain midi.